Bonjour, merci d'être avec nous en ce samedi midi, en ce samedi début d'après-midi. Il nous manque encore une intervenante, si quelqu'un a vu Sylvie Denis quelque part. Elle nous rejoindra sans doute en cours de route. Alors, l'intitulé de cette table ronde s'appelle « La femme est-elle l'avenir du space opéra ?» Voilà, alors on a un plateau féminin et il est clair que ces derniers temps, sur ces dernières années, nous avons pas mal de space opéra écrits par des femmes avec pas mal d'héroïnes qui ont été publiées avec parfois de prestigieux prix. Et donc on va pouvoir se demander si c'est une tendance lourde. Alors c'est pas la première fois que des femmes écrivent du space opéra. On va pouvoir se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est aussi le fruit d'une revendication? Et qu'est-ce qui change par rapport à une première vague comme Octavia Butler, par exemple, ou Johanna Bruce? Est-ce que ce sont les mêmes thématiques qui sont brassées? Avec moi autour de cette table, complètement sur votre droite, Sylvie Lenné. Sylvie Lenné, superbe novelliste de science-fiction, avec notamment Fidèle à ton pas balancé, qui a un très joli recueil. Et dans Fidèle à ton pas balancé, on parlera notamment de l'opéra de Chaya. Alors, l'opéra de Chaya, c'était d'abord le titre d'un recueil, mais c'est aussi le titre d'une nouvelle. Et on est en plein dans la thématique sur le space opéra. Voilà, à ses côtés Emma Newman avec Planet Fall. On parlera là aussi de space opéra et on parlera de ses héroïnes. Elle est accompagnée de Becky Chambers, dont on a pu lire L'espace d'un an et Libération. Donc là aussi, on va pouvoir explorer un petit peu vos romans. Et puis juste à mes côtés, Laurent Schuner. On connaît notamment la série Quantica. Et on parlera d'une héroïne qui s'appelle Ambre, notamment. Un dernier petit point, on a deux auteurs anglo-saxons. Si vous avez besoin pour la traduction, il y a des petits boîtiers qui sont à votre disposition, juste là-bas. Moi, je vous propose, on va d'abord commencer à parler un petit peu de leurs récits. Là-bas, c'est leurs récits, leurs héroïnes. Et puis, à partir de ce moment-là, on ouvrira un petit peu la discussion. Sylvie, dans l'opéra de Chaya, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton héroïne?
Alors, mon héroïne est une voyageuse qui est née à bord d'un vaisseau et qui cherche où elle pourrait passer sa vie et où elle pourrait se sentir bien. Et c'est pas facile pour elle. Elle a fait des essais dans une bonne partie des planètes qui sont à sa portée. Elle a l'impression de retrouver toujours les mêmes sociétés où finalement l'humain conquiert la planète, la domestique, la transforme. Et elle a l'impression de retrouver toujours les mêmes communautés étriquées où finalement la pression sociale est très forte. Et elle voudrait trouver autre chose. Et un peu par hasard, elle découvre une planète qui fonctionne sur un principe tout à fait différent où on a besoin de voyageurs de différentes races. La planète en a besoin et les habitants de la planète en ont besoin parce que la transformation et la rencontre font partie du cycle de vie de la planète. Et donc, une planète qui contrôle son flux de visiteurs, elle aura la chance d'être accueillie, évidemment. Et toute la planète va s'adapter à elle, les fruits, les plantes, les animaux et les créatures intelligentes qui sont sur cette planète. Tout le monde va s'adapter à elle et c'est a priori idyllique. Pas forcément jusqu'au bout.
Et justement, pas forcément jusqu'au bout. On en dira peut-être, non, on n'en dira pas, on ne fera pas de spoil. À tes côtés, Emma Newman, dans Planet Fall, alors j'ai noté plusieurs personnages féminins. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Je pense notamment à Renata et à Lee Soon-mi, j'espère que je le prononce bien.
Yes, the protagonist, Renata Galli, is the 3D printing engineer and principal architect of a colony on a distant planet. She also suffers from a severe mental illness, and the novel explores the circumstances that happened when the colonists first made Planetfall that were 20 years earlier. As we learn about what really happened when they made Planetfall, we also uncover the nature of Ren's mental illness and why it came about and how the pressures of what happened and the environment that she's in have created the life that she leads now. Lee Soon-mi is someone that is referred to as the Pathfinder, and she was Renata's best friend on Earth, and she found a strange seed and was compelled to eat it, and it changed her. And she fell into a coma and woke with the coordinates to what turned out to be a planet. And she said that we have to go there because that is where we will find God. And so she has been so changed by what she ate that she is able to build a ship to take everybody there. So they all go to this distant place to find God. That all happens before the novel. And so it explores kind of the intersection between science and religion and what compels people to go and do these things, to go to this planet. But it's really a psychological study of Wren, that she's an incredibly intelligent, incredibly important and capable member of the colony. There's only 1,000 people in the colony. But she is also very, very broken. And so we learn about her throughout the novel.
Je vais vous poser la même question, Becky Chambers. Alors là, il y a plein de personnages féminins. Hein. Chez vous, j'ai noté Rosemary, j'ai noté le capitaine Hachi qui aime une alien, j'ai noté l'intelligence artificielle qui cherche un corps. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Sure, there's a lot of them, so I'll have to be very brief. So my books take place in a far future intergalactic setting in which humanity lives alongside many different species, so I deal with characters both human and alien. And it is a future in which, you know, women do stuff, which is important. So I have everything from, you know, a fresh out of college clerk to a seasoned spaceship captain to a rough around the edges mechanic to artificial intelligences, to all sorts of things. I don't write from just one point of view. There's some characters that are more prominent than others, but I don't really have a protagonist. I write obviously a lot of male characters as well, but to me, I feel like a balanced cast in terms of both gender and experience is the best way for me to explore that world. So the thing that I value most in my female characters, well, in all the characters specifically, is diversity of both character traits and of the roles they do in this world.
Laurence, à toi de jouer dans Quantica.
Oui. Allô. Ouais. Oui, alors dans mon livre, c'est pareil, j'ai plusieurs points de vue. Hein, effectivement, j'ai le personnage de Amor Pasquier, qui est exobiologiste et spécialiste des extrêmes, des micro-organismes, puisque l'histoire se déroule dans 300 ans sur une exoplanète gelée. Le personnage d'Ambre Pasquier, effectivement, est une chercheuse, directrice de projet, la mission Arkea. Et c'est elle qui va organiser une expédition à travers la carapace de glace de 4 km d'épaisseur de cette planète, de cette exoplanète gelée. Et c'est elle qui va permettre, en effet, la rencontre entre deux civilisations, à travers un moyen très spécifique qui est le son et la musique. Ce qui est très particulier, c'est une ancienne joueuse de tabla, donc de musique classique hindoustanie, d'Inde du Nord. Et elle est devenue scientifique, elle a rejeté, en fait, à son adolescence, suite à un traumatisme, quelque chose qui lui est arrivé, dont on ne parle pas dans le premier tome de l'histoire, mais dans le deuxième. Elle a rejeté tout son passé de petite fille indienne pour se consacrer d'une façon assez extrême à la science. Et ça tombe justement sur elle de se voir confrontée à une civilisation qui ne semble pas avoir de langage scientifique. Donc elle va devoir plonger dans son passé pour retrouver ses origines et son lien à la musique afin de pouvoir communiquer. Donc en cela, c'est un personnage clé du livre. Effectivement, c'est une femme, mais il y a plein d'autres personnages. Il y a aussi des extraterrestres, cette civilisation qui s'appelle les bâtisseurs. Il y a un vaisseau en orbite abandonné qui s'appelle... que les humains ont appelé le Grand Arc, mais qui est aussi une personnalité, on le découvrira au fur et à mesure de la trilogie. Voilà.
Quand on fait du journalisme ou quand on prépare par exemple des tables rondes, on a souvent la tentation de regrouper différents romans. Et la thématique de cette table ronde sur « La femme est-elle l'avenir du space opéra ?» c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ces dernières années, on a l'émergence d'auteurs de femmes écrivant des livres avec des femmes comme héroïnes. Mais parfois, c'est se méprendre sur les intentions des auteurs. Est-ce que, lorsque vous écrivez du space opéra avec des héroïnes, est-ce que vos intentions féministes sont... dès le départ dans l'écriture, ou est-ce que ça vient par-devers vos personnages? Qui veut répondre? Sylvie.
Je me suis demandé, moi j'écris dans mes histoires, quelquefois les protagonistes, les personnages essentiels sont des hommes, quelquefois ce sont des femmes. Mais dans cette histoire en particulier, je m'étais posé la question, mon personnage n'aurait pas pu agir de la même façon si ça avait été un homme, c'est une évidence. Parce que la femme que j'ai mise en scène, tout naturellement, elle a eu envie d'accepter les règles qu'on lui proposait, de s'intégrer dans la société qui l'accueillait et qui l'accueillait d'une manière chaleureuse et plaisante. Et sa réaction a été de jouer le jeu, même si elle ne comprenait pas tout, et de ne pas poser trop de questions. Et elle n'a pas essayé de prendre le contrôle de sa propre vie. Enfin, elle s'est laissée guider. Et elle n'a pas non plus essayé de prendre le contrôle des événements, ni même ensuite d'imposer quoi que ce soit dans le monde où elle s'est retrouvée. Et je suis persuadée que si l'homme que j'avais mis en scène, d'abord, il n'aurait pas fait la même chose. Je suis sûre qu'il aurait posé des questions, qu'il aurait voulu prendre le contrôle, qu'il se serait révolté, et il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de l'expérience que mon personnage féminin a pu construire.
Becky Chambers, Emma Newman, l'une des deux.
Yeah, so for me, it's very. I can't say that there's a ton of. It's funny because it's a conscious thing I think of, but also not. I'm a woman, and so I would like to see a future with me in it. It's not any more complicated than that. I'm not coming in with some sort of political agenda or some sort of radical notions. I like space. And I would like to be in space. So therefore, I write characters that I can see myself or my friends in, be they male or female. And so when I have questions like this, you know, do you, you know, intentionally use female characters? It would take intention for me to not use female characters. It would be very strange for me to not use female characters. I can't imagine doing anything else.
Yeah, I find it fascinating that it's almost like a political statement to put ourselves into space, like, hello. I think we can't escape the conversation which is always happening. And certainly there is a lot of discussion in the global conversation about women in STEM. And so it's almost inevitably political that I made my engineer a woman. Because we don't see enough attention given to women in engineering. And of course they're there, but there are many, many difficulties that women in STEM face because of sexism and the patriarchy. And I feel that panels such as this entire topic is symptomatic. You know, that there is even, you know, I've been, my first, short story collection was published in 2011. My first, what I call my proper book deal, was 2013. So I've only been doing conventions for the past four and a half years. And already it feels like I've been through two or three cycles of people going, oh, women are writing science fiction. Women are writing epic fantasy. It's like there's a rule that every 6 months or so, one of the national newspapers in the UK has to have this revelation and suddenly list 1 to 5 women who happen to have written books that women have been writing for the past 100 years. And it is tiring. And it feels that if you are a woman writing in science fiction, that you do not have a level playing field because you are constantly having to participate in the conversation of, yes, hello, we are here, when we have been here the whole time. Sometimes it's not that we're writing a particular book, it's, oh, women are going to conventions. Oh, women are enjoying science fiction. And when you've been a massive science fiction fan all of your life and you happen to be a woman, it's incredibly insulting. So I don't know if this is a trend or if there are political decisions. Thank you. I think this is just one of these circular, this is one go-round on the same merry-go-round that we find ourselves on again and again and again. I don't want to make you feel bad. I don't want anyone here to feel bad about that. But I felt it needed to be said. And I look forward to a day, whether it will come or not, I look forward to a day where we do not have to have panels discussing the fact that women are doing anything, because we always have. And we always will be, and we are here, we are doing it now. Let's move on.
Et en même temps, est-ce que, puisque ce sont des questions sociétales qui se posent de manière plus globale, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de les poser par le biais de la littérature? Est-ce que finalement, regrouper cinq femmes, c'est la bonne excuse pour parler d'un thème qui nous touche en termes de société de manière plus générale? Je défends pas les programmateurs ou la programmatrice.
Not at all. But I think also that it is disproportionately the women within a field who carry the weight of that. The women who have to work harder, all of the marginalized groups of people out there who have to work harder to be present in any field, are the ones who have to do the heavy lifting. And it feels that just to do our job, we have to carry more, we have to speak louder, we have to declare that we are present. When I would really just like to write books and to earn a living. I get frustrated by this, and it isn't necessarily as bad, but you know.
Yeah, I just wanted to add that there is nothing I would like more than to come to a convention and talk about nothing but science or about aliens or spaceships, because that's what I write and that's what I love. At the same time, the fact that panels like this happen means that we do need to talk about it still. And so much as I would love to not, we still need to. And so it's this weird paradox of I don't want to, but we have to.
Laurence.
Oui, alors pour venir à la première question, là, ouais. J'avais pas encore répondu. Moi, c'est un peu pareil que...
Emma, Sylvie.
Voilà. J'ai toujours écrit de la science-fiction, donc pour moi, ça a toujours été naturel, et j'ai toujours fait des métiers d'hommes. Donc en fait, c'est quelque chose, je me suis dit, je vais faire ce métier, je vais faire des images de synthèse, je fais des images de synthèse. Je vais écrire de la science-fiction, de la art-science, j'écris de la art-science. En fait, pour moi, je ne vais pas me poser la question en me disant, oula, c'est de la science-fiction... Est-ce que je peux le faire? C'est quelque chose que, quand j'étais peut-être vers l'adolescence, je me suis posé une fois cette question, je me suis dit, oula, mais il y a beaucoup d'hommes qui écrivent de la science-fiction, est-ce que j'ai le droit d'écrire aussi de la science-fiction? Est-ce que ça va être considéré? Est-ce que ça va être, est-ce que ma science-fiction va être lue, etc. Et la première fois que j'ai publié un livre, qui était ce bouquin-là, Vestige, la première fois que j'étais à la FNAC, et que j'avais besoin de le voir en chair et en os, on va dire, dans une librairie, et il y avait un monsieur qui tenait mon bouquin dans la main, et je regarde et je dis, vous savez, c'est très bien ça, sans me faire passer pour l'auteur évidemment. Et il me dit, oh, mais c'est une femme qui l'a écrit, ça peut pas être bien, ça peut pas être de la science-fiction. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappée. Donc effectivement, je pense que ce type de table ronde, quelque part, c'est un peu irritant. C'est vrai, parce qu'on a envie de parler, moi aussi j'ai envie de parler d'extraterrestres, de physique quantique, de cosmologie, de trucs comme ça. Mais c'est vrai que je me suis plusieurs fois trouvée confrontée à cette situation où on me regardait avec des yeux globuleux, l'air de dire, mais pourquoi écrivez-vous de la science-fiction?
En fait, au moment où on peut interpréter tout en politique, la question, c'est effectivement la question des revendications derrière l'art. En fait, c'est surtout ça la problématique. Et c'est la bonne excuse pour s'en servir. Sylvie.
Oui, je vais aller très vite. Mais c'est vrai que moi aussi, comme Laurence, j'ai vécu la suspicion par des gens qui ne m'avaient jamais lu que j'écrivais probablement de la romance ou quelque chose de sentimental, ce qui m'énervait un peu. D'autre part, je suis ingénieure, donc j'ai toujours été dans des milieux d'hommes et dans un milieu universitaire... de scientifiques. Donc moi non plus, je me suis jamais posé la question de ma légitimité à en faire, parce que de toute façon, on l'a fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que la question, elle mérite vraiment d'être posée, parce que pour préparer cette table ronde, j'ai été regarder la rubrique Space Opera du site web du Livre de Poche, et j'y ai trouvé une liste des maîtres de la science-fiction, que j'ai un peu dépouillée pour vous. Donc, dans ce site, on identifie 10 grands maîtres. Les grands maîtres sont tous des hommes. Je vous les dis vite, je ne vous dirai pas les autres. Hamilton, Asimov, Van Vogt, Al Clement, Frank Herbert, Heinlein, Vance, Delany, Niven et Scott Card. Bon. Et puis après, j'ai regardé la liste plus détaillée. J'ai dépouillé les deux premières pages de la liste. Et 26 personnes sont citées dans la proportion de 24 hommes et 2 femmes seulement. Les deux femmes étant... Caroline Gichéry et Anne McCaffrey, c'est tout. Donc l'écrasante présence masculine n'est peut-être pas au niveau de la production, mais au niveau de la visibilité et de ceux sur qui on braque les projecteurs, il y a un énorme travail à faire encore. On va se taper des tables rondes où il y a des femmes de temps en temps et il faut qu'on continue.
Sylvie, alors Sylvie Denis vient de nous rejoindre. Ton avis un petit peu sur tout ça ? Je te prends au bon, je te prends au vol. Donc la question qu'on se posait, Sylvie, c'était la part de revendication dans les romans. Est-ce qu'elle est à l'origine du roman ou des récits, ou elle se fait à travers le récit ? Et cette question, et il y avait une autre question de la dérivation, de l'utilité en fait de ce genre de table ronde qui agace et qui rend en même temps utile.
Alors pour l'agacement utile, oui, je suis entièrement d'accord, c'est comme ça et ça sera comme dit lui, de la même façon, je crains, pendant un certain temps. Mais c'est pas tant dans le problème de l'existence de femmes auteurs de SF, c'est un problème de visibilité. C'est pas un problème, on arrive, même si c'est un peu difficile au début, effectivement, d'être pris au sérieux. En tout cas, moi je l'ai vu sur la longueur de temps, au moins pendant les 10 premières années de ma carrière. Mais par la suite, effectivement, oui, c'est essentiellement une question de visibilité, de la façon dont l'histoire est écrite, mine de rien. Parce que quand on aboutit à des listes comme ça, c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Et puis qu'il y a des auteurs, on se dit, mais où est Catherine Moore, où est Léa Raquette, où est Ursula Le Guin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et j'en oublie. Où est Joël Van Trobert, enfin bref. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question, bien entendu.
C'était ça. C'était quand toi, c'était tu écris, ça. Est-ce que tu as des intentions ouvertement féministes ou simplement tu écris des histoires et elles se rangent derrière?
De manière générale, j'écris des histoires. J'ai des personnages qui sont tantôt des hommes, tantôt des femmes. Très franchement, c'est quelque chose que je fais de manière assez spontané et que je ne remets pas en question pendant l'écriture du texte. Enfin, les personnages me viennent tout seuls, donc je ne me pose pas la question. Par contre, effectivement, je sais, j'ai fini par me rendre compte que j'avais tendance à faire ce qui arrive quand on a été plongé dans une culture où le neutre est en fait le masculin, c'est-à-dire que j'ai tendance à m'identifier et à créer des personnages masculins. Parce que ce qu'on m'a proposé comme identification féminine quand j'étais gamine, ça me faisait profondément suer. Donc, et c'est pour ça que je me suis mis à lire de la SF, c'est parce qu'il y avait autre chose que ce que on pouvait me proposer même dans la littérature censée être distrayante, ça ne me distrayait pas du tout. Donc effectivement, c'est une chose dont j'ai pris conscience. Après, je pense que s'il y a des revendications politiques ou entre guillemets ce genre de choses, elles sont, elles passent comme d'autres choses passent, j'espère, dans ce que j'écris.
Emma Newman, je vous voyais opiner de la tête. Vous voulez ajouter quelque chose?
Just that I agree with everything that has been said.
J'ai bien fait de venir.
There was a point. I feel very emotional sitting up here discussing this. That this is a struggle which is so familiar to us. That there is almost a, oh yes, we all feel this. When you were reading the list from the website, in the UK, we've been 2 or 3 years ago. A few of us started examining the tables in the only major bookstore chain in the UK and counting the number of male and female names on the science fiction and fantasy tables. And it was a very similar story to that list. And I think that all of this is symptomatic of what we see across all of society, across all careers, all areas. You know, there are so many stories of women being erased from history, from scientific history, from again and again and again, and it feels like we are constantly battling our own erasure, and that it is tiring and it is necessary. And like I say, one day maybe we won't have to have these discussions, but I don't think that day is here. And hopefully it will come, but I can't help but think that as we're another turn in the cycle, that there were probably many women in years before us who felt exactly the same frustrations. And I don't know how to change that. How do we change that, other than saying what we are saying now?
Je sais pas. C'est difficile, oui, c'est difficile. C'est compliqué et ça dépend pas souvent des auteurs, parce que les auteurs, leur job, c'est d'écrire les livres. Ça prend déjà pas mal de temps et d'énergie. Donc ensuite, quand il s'agit de les rendre visibles, ça devient la part de la question des éditeurs et quelque part ça devient la visibilité, c'est un peu l'ensemble de la chaîne qui est en question, c'est les libraires, c'est les distributeurs, les diffuseurs, et là ça devient très très lourd et très compliqué malheureusement.
Sylvie.
Moi j'ai jamais eu le sentiment que les éditeurs faisaient des différences entre leurs auteurs masculins ou féminins, ou qu'ils étaient moins accueillants vis-à-vis des auteurs féminins. Par contre, il me semble que les éditeurs, bah c'est logique, sont très essaient de sentir comment va réagir le lectorat, et s'il y a un barrage à un moment donné, il est très très insidieux, c'est-à-dire qu'on pense que le public va être plus attiré par telle ou telle étiquette. C'est bien pour ça qu'il y a des femmes qui signent avec des pseudos masculins, on ne voit jamais l'inverse. On imagine que la réaction du lectorat sera... C'est peut-être pas tout à fait faux, mais alors, comment éduquer le lectorat autrement qu'en lui présentant des tonnes de très bons bouquins féminins? Il faut que nous, on défende les jeunes autrices qui arrivent aussi, hein, ça fait partie du combat.
Est-ce que la science-fiction, alors je disais sur un article sur le web, parlant justement de la science-fiction au féminin, et qui disait peu de médiums sont aussi efficaces pour articuler les aspirations du féminisme que la science-fiction. Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce que vous en êtes servi dans vos romans? Becky Chambers.
Well, the beautiful thing about science-fiction is that it's a blank slate. And that's one of the things I love about it so much, is that you can talk about the real world without making the reader realize immediately that you're talking about the real world. You know, the minute you start labeling things, categories of people, be they cultural or racial or philosophical or political, if you use words from the real world or use ideas from the real world, people jump to assumptions immediately, right? They bring their own biases in, they bring their own prejudices in. And with science fiction, that's why we're, you know, everybody enters being like, all right, whatever ideas you want, just tell me, I'm open to it. And that's what makes it such a great place to discuss things like gender and things like, cultural roles, societal roles, because you can say, well, we're on an alien planet and it works like this. And, or we're on a generation ship and it works like this. And the reader is willing to go along with it because it's outside of their immediate understanding of how the world works, because the reader has willingly surrendered and said, I will listen to whatever ideas you have to say. And so that makes this genre, I think, I'm biased, I think it's the best genre for discussing real world issues, even though it's also a flight of imagination, in that you can take people out of the little boxes they build around themselves and let them explore other ideas freely.
Est-ce que quelqu'un va intervenir sur le médium science-fiction? Vas-y, Laurence, si tu veux.
Moi, pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est très, très large, c'est très ouvert. Et comme étant petite, je voulais toujours parler de l'altérité. Je trouvais qu'effectivement, la science-fiction, il n'y avait pas justement ces frontières. Autrement, on va parler tout de suite du racisme, des choses comme ça, ou des minorités, etc. Et là, c'est plus ouvert. Donc, on peut créer notre propre univers, amener l'information qu'on veut y mettre, qui est notre propre information. Donc, effectivement, pour les mêmes raisons, je trouve que c'est aussi un média qui me, pour ces raisons, qui m'intéressait beaucoup aussi, pour cette ouverture en fait.
Sylvie,
j'ajouterais que c'est une littérature dont le travail est de poser des hypothèses, de faire des expériences de pensée. Donc à partir de là, on peut faire ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut, dans quel que soit le sujet, la direction qu'on veut prendre, il n'y a aucun problème. C'est très pratique.
Il y a peut-être une thématique à laquelle on est sûrement toutes sensibles, c'est la thématique du respect. On a envie qu'il y ait du respect dans les relations humaines. Et ce qu'a dit Becky, j'aurais pu le dire dans ces mots, j'aurais pu les exprimer de la même façon. Dans une autre de mes nouvelles, Les yeux d'Elsa, j'ai utilisé un procédé purement science-fictif pour parler des relations hommes-femmes et du regard... dépréciateur que l'humain portait sur la femme qui était en face, en faisant de la femme en face un dauphin, mais elle aurait pu être un alien, elle aurait pu être un extraterrestre. Et effectivement, on repart sur une page blanche où les jugements de valeur, ce qui définit l'intelligence, ce qui définit l'humanité, ce qui mérite d'être respecté, ben, il faut le réinventer sur des bases totalement vierges. Donc voilà, on a un outil extraordinaire dans les mains.
I agree with all of this completely, but I'm quite surprised to realize that I'm actually far more feminist in my urban fantasy series than I am in my science fiction. I mean, really quite fiercely, stridently feminist in the fantasy, whereas with my science fiction, I almost wanted to create a future in which there are terrible things, but when it comes to gender and gender politics, it's one of the very, very few things that have got better in the world, and I think I needed to create almost a balm for myself, or something soothing for myself, that that my rage is more focused on political anger and human rights and socioeconomic problems, but that people are no longer resistant to the idea of having non-binary gender. And that I wanted to have that as a refuge, almost. And I think that's something that science fiction can give us, that you were saying about how you can start with this blank slate, that we live with this all the time, and that it can be a place where we can say, well, no, our characters don't have to suffer the same things as us. We can do that. We can show it how it can be better.
En travaillant, évidemment, on se souvient d'Ursula Le Guin, d'Octavia Butler, ou plus récemment de Loïs Maxtorp-Bujold ou d'Elisabeth Moon.
Anne Leckie.
Anne Leckie, par exemple. Mais Anne Leckie, c'est pas ma question. Non, ma question, c'est la question de la filiation par rapport aux autrices des décennies précédentes. Comment vous vous définissez par rapport à elles? Est-ce que vous avez l'impression de porter un message plus fort que ce qu'elles ne le faisaient? Ou est-ce que vous êtes véritablement dans leurs traces? Je vous questionne sur la question vraiment des revendications, hein. Becky Chambers.
Oh, I'm following in some very big footsteps. Le Guin is why I write science fiction. She's who I discovered when I was a teenager, and it made me fall in love with the entire genre. So I think that all of us here owe a debt to all the authors who have come before and who did round tables before and who put their names on the shelves for us to find. I don't think for a minute that our voices are louder or stronger or anything like that. We've just picked up the torch, you know? And if it's louder, it's because there's more of us. Not that there haven't ever been less, but I feel like with every generation, we become a little more visible, and slowly but surely. And so in that, I am just incredibly grateful and humbled by the women who came before us when it was harder.
For me, I feel I am living very gratefully and happily in the shadow of Mary Doria Russell, who wrote The Sparrow, which I think is one of the most beautiful books I've ever read in any genre, but destroyed me in all the best ways. And that, you know, when you read a novel that has such a profound impact on you, it is a humbling experience, and you can only ever hope that you will get close to what they have done. So yeah, definitely, I don't feel like I'm stronger than all of them, that I'm grateful that they were all there before us.
Laurence?
Quand j'étais enfant, jeune, je lisais beaucoup de science-fiction, énormément, de science-fiction très scientifique, très américaine, très anglo-saxonne. Et un jour, je suis tombée sur Nathalie Enberg, La Plaie. Et j'avais déjà lu beaucoup de science-fiction, parce que j'ai commencé à lire la science-fiction vers 8-9 ans. Et l'écriture de Nathalie Enberg, j'avais même pas capté que c'était une femme, en fait. Je prenais des livres et je les dévorais, en fait. Je les dévorais. Et je faisais même pas attention à cette époque-là, qui avait écrit vraiment, c'était des noms, Asimov, tout ça, ça me traversait, etc. Et j'ai quand même réalisé, en fait, que c'était la seule femme de science-fiction que j'avais lue à cette période. Et je pense que c'est peut-être grâce ou à cause d'elle que j'écris de la science-fiction, principalement, à cause de son style particulier et de l'impact de traitement de ses personnages, en fait. Le traitement des personnages était plus fort que toute la science-fiction que j'avais lue jusqu'à présent. Et je pense que c'est ça qui était le déclencheur chez moi. Voilà.
No, Sylvie. L'une ou l'autre.
Alors, moi, comme Laurence, j'ai lu beaucoup de science-fiction américaine de l'âge d'or très jeune. Et j'ai dû lire au moins une centaine de romans avant de tomber sur une femme. J'ai lu tous les grands classiques et les grands maîtres. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes dedans. Et j'ai mis longtemps avant de me rendre compte qu'il y avait un certain malaise à lire des grands auteurs comme Asimov, Shelley, et qu'il n'y avait pas de femmes dans les histoires. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et j'adorais ces univers et j'avais envie de quand on est gamin, on se raconte les histoires la nuit, on se trouve un rôle, on se projette dans l'univers. Mais il n'y avait pas beaucoup de place, ou alors il fallait imaginer que j'étais quelqu'un d'autre que moi-même. Enfin bon, c'était pas facile. Et j'ai une énorme reconnaissance aux premiers auteurs hommes que j'ai lus, qui, eux, étaient capables de faire vivre des femmes dans lesquelles j'avais envie de me reconnaître. Hein. Et j'ai beaucoup de reconnaissance à, je sais pas, Christopher Priest, par exemple, y en a, ou d'autres. Même Norman Spinrad a mis en scène des beaux personnages féminins. Il y en a quand même certains. Et à chaque fois, Robert Silverberg aussi, quelquefois. Et à chaque fois, j'avais envie de dire merci, monsieur. Après, j'ai découvert beaucoup plus tard Ursula Le Guin, Elisabeth von Arburg aussi. Mais bon, ce sont des hommes qui ont fait ce travail pour moi, en premier.
Sylvie ?
Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Becky Chambers. Et j'ai eu, je pense, relativement de la chance de tomber, de piocher dans la bibliothèque d'une personne qui avait pas mal de livres de chez J'ai lu. À l'époque, dans les années 70, et heureusement, il y avait Leigh Brackett. Et donc, à partir du moment où on pouvait lire Leigh Brackett, et où il y avait Catherine Moore, et par la suite d'autres, Ursula Le Guin ensuite, mais c'était dans d'autres collections, même s'il y avait une majorité d'hommes, de temps en temps, il y avait une femme, et j'appréciais ce qu'elle faisait, donc on ne peut qu'être reconnaissant et avoir envie de continuer à porter la torche, comme disait Becky Chambers, parce qu'on ne fait que ça de toute façon, mais c'est très agréable, en fait. Enfin, c'est plus que agréable, ça réchauffe le cœur.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin maintenant, puisqu'on a posé les constats, on a parlé des difficultés, on a parlé des revendications. Suffirait-il de faire des panels ou simplement d'écrire de bons livres avec des autrices femmes, ou faudrait-il aller un petit peu plus loin pour la question de la littérature ? Je pense par exemple à Hollywood qui a inventé une grille de lecture, par exemple des films, en fonction du féminisme. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait faire par exemple pour les romans ?
Mettre un label ? Agréé,
un label ou en tout cas imposer une grille. Tu vois, la question c'est est-ce qu'il suffit simplement de faire un changement doux en publiant de plus en plus d'auteurs femmes avec de plus en plus d'héroïnes, ou est-ce qu'il faudrait essayer d'aller un tantinet plus loin ?
Enfin, je pense qu'il faut écrire de plus en plus de science-fiction en tant que femme, quoi. Simplement, éviter justement les catégories, je pense que c'est le pire truc qu'on puisse faire, quoi. Enfin, au contraire. Moi, je pense. Enfin, c'est un avis très personnel. Hein. Mais non, écrivez de la science-fiction et mettez en scène des personnages.
Mais en même temps, ta catégorie, elle permet aussi d'avoir cette table ronde aujourd'hui et de poser la question.
C'est vrai.
Tu vois ce que je... enfin,
oui, tout à fait. Oui.
C'est une
question qui est un peu à double tranchant, qui est un peu ambiguë, effectivement. C'est qu'on aimerait faire partie du mainstream, en fait, dans le sens où on est considéré comme un auteur, point. Mais en même temps, il faut sensibiliser le public à cette problématique. Donc, effectivement, mais on en revient à la première question que tu avais posée. Je ne sais pas quoi répondre personnellement, en fait. Je ne sais pas.
There are two things that spring to mind. One thing that I did was I wrote to the bookshop that I mentioned and said, "Hello, I perceive a problem. Would you agree?" In a very polite way, and a very nice man wrote back to me and said, "There's no problem. There's no problem at all here," even though I presented statistical, factual evidence. And it wasn't just me, it was other people, other writers wrote to this bookstore and they did not perceive a problem. And I think one of the things that I would like to see is a change in visibility, as you say, that is one of the major problems we have, and a commitment from booksellers to look carefully at the proportion of female and male writers on their tables. I hate to say that something like this should happen or needs to happen, but I can't help but think that there has to be some fundamental change. There has to be a conscious effort at the point where people discover new writers, new science fiction. If we could have the same chance of discovery. But even as I say this, I hate saying it. It's so contradictory. The other thing that came into my mind is that you mentioned Hollywood, and oh my life, I could rant for a whole hour about Hollywood and things. But something which gives me hope now is that we are seeing a kind of a dismantling, and I hope a long-term dismantling, of the power of predatory men in Hollywood. And these predatory men who view women as sexual objects, who also had a huge amount of power over what films were made, what roles those women have in those films, what gets funded. If we see a fundamental shift that continues, then perhaps the narrative which is passed down from Hollywood in movies will also change. And it's that kind of thing that I'm desperate, desperate to see, because we are all programmed as a society to expect certain things, and that programming comes from so many different places, and that's one of those places.
Je voulais juste ajouter une chose, c'est que avant d'être ici comme auteur de science-fiction, j'étais auteur de bande dessinée. Et c'est une question c'est ce genre de discussion, je les ai eues il y a 15 ans en arrière, où par exemple, on disait toujours, voilà, pourquoi en bande dessinée on met un tel type de femme en scène ? Et c'est souvent la femme avec les gros nimards, etc., qui est là pour faire valoir, etc. En fait, c'est un peu ce même genre, je pense, de problématique qu'on a dans les films hollywoodiens, je pense. C'est cette vision de la. Voilà, un peu trop, caricatural en fait, de la femme qui doit évoluer, qui a commencé à évoluer en bande dessinée d'ailleurs. Mm. Puis d'autre part, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la visibilité de la femme, justement, dans les librairies ou des choses comme ça, il m'est arrivé, au tout début, quand j'ai commencé à publier de la science-fiction, à aller dans une librairie et dire, voilà, en fait, dans votre librairie, il y a très peu de femmes, en fait. J'avais posé cette question, et le libraire m'avait répondu, eh bien, les femmes n'ont qu'à écrire plus de science-fiction. Donc, c'était vraiment... Il n'y avait pas trop de discussion, en fait, avec la personne que j'avais en face de moi. C'était quand même assez caractéristique. C'était la faute des femmes, parce qu'elles n'écrivaient pas assez de science-fiction. Voilà.
Sylvie.
Je ne crois pas qu'on puisse faire beaucoup mieux en termes de production. Enfin, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais, par contre, moi, je suis persuadée aussi que le problème, c'est une question de visibilité, de mise en visibilité. Et je pense qu'il y a au moins un des maillons de la chaîne... Un des endroits où il faudrait être très vigilant, en plus, quand on parle de bande dessinée d'Angoulême, la question devient criante parce qu'elle a été beaucoup évoquée, c'est la question des prix. Les prix, c'est une occasion de mettre en lumière des auteurs. Quand on compare la manière dont les prix sont répartis entre hommes et femmes par rapport à la production hommes et femmes dans des genres qui sont réputés censément plus masculin que féminin, le décalage est flagrant. Donc voilà, il faudrait sensibiliser les jurés, déjà.
L'autre Sylvie, je te voyais vouloir réagir.
Non, je suis globalement d'accord. Je n'aurais pas grand-chose à ajouter. Je pense que le problème n'est quand même pas uniquement la visibilité. Le problème, c'est aussi toutes les conditions socio-économiques qui font que les femmes vont se trouver, ou pas, souvent, en capacité de produire. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que vivre uniquement de sa plume, ça arrive à 1% des auteurs. Et ce 1%, je pense que si on faisait un joli calcul, on verrait qu'il est surtout masculin. Et ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire qu'il y a des tas de micro-événements et de micro-raisons qui convergent toutes vers ce genre de choses qui font qu'au bout du bout, vous allez trouver pour 10 hommes qui auront écrit un roman, il y aura une femme parce que des tas de petits obstacles auront été, c'est ce qu'on disait, ce que vous disiez sur la charge d'obstacles, il y en a toujours plus pour les femmes. Et c'est difficile à percevoir. Parce que, enfin, moi, à un moment, je me disais, mais t'es parano, ça n'a rien à voir, quoi, patati, patata. Pourquoi ils font ça? Pourquoi cette chose? Pourquoi j'ai reçu cette lettre d'un anthologiste qui me dit, je ne t'écris pas parce que tu es une femme, mais. Ah bon?
Oui, parce que ce serait bien d'en avoir une au sommaire,
voilà.
Quand même.
Et bon, c'était il y a 15 ou 20 ans, mais quand même, mais ça arrive. Et là, tu dis, mais non, je suis peut-être pas parano, finalement. Il y a quelque chose qui se passe.
Est-ce que ça, ce sont les comportements qui s'améliorent globalement?
Il faudrait qu'on ait 300 ans pour pouvoir te répondre.
I too have had the horror story experience of a man saying in front of me in a shop, when presented with one of my books by the seller, the bookshop seller, oh, I don't read books by women, written by women. And when you see it, it's such a shock, isn't it? It's like, did that really just happen? I sat there thinking, I can't believe I just heard a real human being said that. But it is out there, and I can't decide whether I feel hope or not, because it's so hard to tell, because we are all in our own little social media bubbles, as we are discovering on a global scale. But I can see shifts, and I certainly see it in my son and in small children, that they are not screwed up about gender in the same way, it seems. And that is my only hope. But I think for a long time we've been hoping that X generation will die out and then we will no longer have that problem, and that doesn't seem to be working out for us. So, yeah, we have to keep fighting the good fight, I think.
On glisse doucement vers la fin. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour nos autrices? Oui.
Bonjour. Moi, j'ai une question. Justement, j'étais en train de regarder et ça m'a vachement surprise. Par exemple, pour compétition internationale des courts-métrages... 4 hommes, voilà, donc j'imagine qu'il y a quand même des femmes qui font des courts-métrages également. Long-métrage, 5 est nominé, 4 hommes pour une femme. Pour les BD, ça doit être à peu près pareil. Donc du coup, cette conf est très très bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, en fait, pour changer les choses? Parce qu'au-delà de parler, en fait, du festival de BD d'Angoulême, qu'est-ce qu'ici, on pourrait faire également, en fait?
Juste un petit mot, parce qu'on a eu une conférence mercredi sur peu ou prou les mêmes thématiques, avec notamment Anne Larue et Hugo Bellagamba. Et Anne Larue disant, quand je suis venu la première fois il y a 10 ans aux Utopiales, on aurait eu le collectif de la barbe, et grâce à Hugo Bellagamba, puis après Jana de Batz, directeur et directrice artistique du festival, les choses ont déjà évolué. Voilà, c'était déjà le point de vue d'Anne Larue.
I would say just the fact that you're here sharing this topic with us is huge, because it means that you're all thinking critically about the stories that you consume. You're willing to embrace new ideas or at least listen. And I think that's the first step. It's true for both creators and for fans, is we all have to challenge our own biases. We all have to be aware of the prejudices that society has baked into us without realizing. And just by sitting and having these conversations, we are picking away at them. They don't go away. I have to fight myself on things all the time. Knee-jerk reactions I have to characters or people or whatever it is. So the first step is being aware that the problem exists. So I can't say that there's like a checklist of, you know, here's what you should do in order to help all of us do our jobs. But whatever that is in your own life, you know, start here. Start here. Talk with each other after the panel, whether you agree with all of us or not. I think that's really the best thing we can do to make change.
Compter les livres dans sa bibliothèque et voir s'il y a autant d'hommes que de femmes, c'est un début de prise de conscience. Offrir des livres de femmes à ses amis, à sa famille, à tout le monde. Et des recueils de nouvelles et des anthologies.
Une autre question.
Oui, bonjour. C'était une question pour Sylvie Lenné. Tout à l'heure, au début de la conférence, vous avez parlé d'une de vos nouvelles, je crois, et vous avez dit que vous écriviez indifféremment des personnages d'hommes et de femmes, mais que pour une de vos histoires, vous aviez écrit un personnage de femme parce que c'était une situation où ce personnage devait être accueilli de façon respectueuse et de façon finalement pacifiste par une autre tribu, et que si ça avait été un homme, ça ne se serait pas passé comme ça. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu clarifier, parce que moi j'avais l'impression que vous disiez que par nature, un personnage féminin ne se serait pas forcément rebellé ou n'aurait pas cherché à prendre le contrôle, et que par nature, un personnage masculin l'aurait fait, et ça me pose un peu question. Merci.
Alors, je pense que nous sommes très marqués par... Je pense évidemment que la question du genre est une question purement sociale. Je pense que dans la société actuelle, nous sommes éduqués à ne pas réagir de la même façon, dans les mêmes circonstances. Et quand on a un individu tout seul qui se promène, il se promène en étant marqué par l'éducation qu'il véhicule. Et j'ai du mal à m'exprimer, j'avais un contexte à l'avance, et je ne savais pas quelle interaction l'humain allait développer avec le monde qui serait en face. Je fais partie des gens qui laissent l'histoire avancer sans avoir tout prévu. Et je me suis rendu compte, une fois que l'histoire avait été écrite, que probablement, si j'avais mis en scène un protagoniste homme, il me semble que sous ma plume à moi, il n'aurait pas forcément exactement réagi de la même façon. Et on m'a déjà dit, à propos de certains de mes personnages masculins, ce qui reste très mystérieux à mes yeux, « Ah, mais ton homme, il pense comme une femme. » Un jour, j'ai essayé de comprendre pourquoi on me disait ça. Un jour, on m'a dit « Ah, ben, il est sur un bateau, il veut faire le ménage. Il pense comme une femme. » Je trouve ça très, très surprenant. Ça permet de travailler aussi sur l'empreinte sociale que nous portons, ce genre de réflexion.
Y a-t-il une autre question dans la salle ? Oui, là, ici.
Oui, j'ai une question un peu triste en fait. Est-ce que vous écrivez du space opéra parce que comme c'est très éloigné de ce qui se passe sur Terre, c'est le seul endroit où vous pouvez écrire des histoires de femmes sans que ça soit trop connoté féministe, trop politique en fait.
Non.
On écrit du space opéra parce qu'on aime ça.
J'en écris pas. On n'écrit pas des histoires de femmes, on écrit des histoires.
Juste, on peut jouer dedans, nous.
I would say, I mean, the reason I write space opera is because I care about here and now. And the reason I write futures in which women do things is because I want women today to believe in those futures.
Yes. If I was going to be really pedantic, I would say I don't even write space opera, but then that's a whole other panel about how you define subgenre. But for me, I write science fiction because I am fascinated with the intersection between humanity and technology, and an examination of how what is happening now can be extrapolated into future possibilities. It has nothing to do with feminism, why I write science fiction.
On a le temps encore pour une ou deux questions. Que quelqu'un va intervenir. Oui, là-bas, il y a une question.
Bonjour. Donc, en science-fiction, il y a beaucoup de personnages féminins. Je pense à Ellen Ripley, la princesse Leia. Qu'est-ce que vous, en tant qu'auteur féminin, vous pensez de ces personnages ? Est-ce qu'ils vous semblent crédibles ou relevez plus du fantasme masculin ? Parce qu'ils ont été écrits par des hommes.
Wow. Ellen Ripley gives me life. I love Aliens and Alien. Well, Aliens more is one of my favorite movies because of Ellen Ripley. But I think that is also there is something which is another very common thing that happens in conversations around gender and characters. The whole Smurfette syndrome, the Trinity syndrome. Where you have one special female character and that they are supposed to be our only cultural touchstones. And then you even have directors saying, well, actually, my feminist icon was a much better feminist icon than like, and you're like, what? Are we only allowed one per generation? So that, for me, these characters are very, very important, but I think that we have to be aware of a wider context as well. I love films where there are more than one great female character, and how rare are they?
the thing about Ripley, I too adore her, is that the original script for Alien was not written with genders for the characters. A lot of you probably know this. Ripley could easily have been cast as a man. Any of those characters could have been cast either way. And I think it's what makes her such a great character is because so often when I say we, I mean society, write female characters, we, as you were talking about, the caricature. You know, this is what a female character should look like, and she's very one-dimensional, and she's a stereotype, right? But this character, Ripley, was just Ripley, an individual, a person who could stand on his or her own. And so the fact that we had this character who was a woman, it made all the difference, because she has nuance, because she has layers, because she's complicated. And it's interesting how if you strip away gender for a moment, we're allowed to have women that feel like whole people.
There's a great speech flying around the internet at the moment given by Reese Witherspoon, and how she always hates the moment when she reads a script and the woman says, but what do we do now? And she says, in the real world, in your own life, have you ever known a woman who does not know what to do in a crisis situation? And so that whole portrayal of female characters in movies is something which is being examined, and I hope there will be lots of changes. But I think that one of the things, coming back to the earlier question, sorry, I've come up with an answer like three questions late, I'm very sorry. But something which I think is very important is for all of us to examine the male gaze, to become aware of it, to question in the things that we consume, whose point of view is this really from? How are the people in this film or in this book being portrayed? Why do all of the female characters in this book get described in terms of their chest size? Why do they all have passive roles? It's very easy to see in movies, but it's also still in books. And challenging that all the time and developing that awareness is something we can all do, and it makes us all work harder and demand better.
Merci beaucoup à tous. Merci à nos auteurs. Vous la trouvez tout de suite en dédicace. Vous pouvez poursuivre la discussion. Merci.